Non-lieu d'Emmanuel Bove. Première partie, Parents et amis. Chapitre 1er. Une semaine s'était déjà écoulée depuis mon arrivée à Paris. Je suivais le boulevard de Courcelles, me dirigeant vers les Ternes. Il était désert. Je ne m'étais jamais rendu compte, comme cet après-midi-là, combien, depuis l'occupation, la famille, l'amitié, le fait de se trouver dans sa ville natale, avaient perdu de leur importance. Jadis, dans une situation difficile, il y eut 1000 possibilités pour moi de me tirer d'affaire, de me créer de nouveaux amis, de me loger, de trouver des appuis, des secours. Mais dans la détresse présente, plus rien ne comptait, ni les recommandations, ni les garanties, ni même la parenté. Tout le monde était sur ses gardes. Je venais de m'en apercevoir. Je sentis un vide affreux. J'avais vu beaucoup de mes amis, mais il suffisait que je retournasse chez eux pour qu'ils devinssent plus froids à mon égard. Où aller? Dans les récits de la Révolution, on lit que les fugitifs rassemblent de la paille, se font des litières dans des kiosques à musique, ou bien vont coucher dans les bois de Meudon, mais aujourd'hui, cela n'était plus possible. Je regardais les Allemands que je rencontrais. Certains étaient accompagnés de femmes que j'avais peine à m'imaginer, se donnant à eux tellement elles avaient un air dur. Comme personne ne faisait attention à eux, ils avaient adopté une attitude invariable avec tout le monde, qui était de paraître se croire seul au monde. Quelquefois des officiers, non plus en tant qu'Allemands, mais en tant que gens placés socialement au-dessus de moi, me souriaient avec bienveillance. J'avais la lâcheté de leur répondre, pour ne pas les indisposer, ce qui me mettait parfois dans une situation grotesque à l'égard de mes compatriotes. J'entrevoyais le moment où ceux-ci allaient me montrer leur mépris. À moi, qui en avais tué 2 de ces Allemands. À moi, qui avais fait évader, au risque de ma vie, 14 prisonniers. À moi, dont la tête était mise à prix. De tout ce qui m'est arrivé, le plus extraordinaire est peut-être cette situation où je me suis parfois trouvé près de passer pour un proboche à l'égard de Français qui, s'ils avaient été à ma place, seraient encore bien sagement dans leur camp de prisonniers, en train de travailler pour les nazis. Il était 8 heures du soir. Il fallait qu'à toute force je trouvasse une chambre. J'aurais voulu attendre pour chercher qu'il fût plus tard, mais les hôtels eux-mêmes commençaient déjà à fermer. Je me disais, pour m'encourager, qu'il n'était pas possible que les petits inspecteurs de police qui visitaient les hôtels portassent sur eux la liste complète des gens recherchés. Ils devaient simplement relever les noms et, une fois de retour, procéder à des confrontations à l'aide des fichiers. Ils ne devaient pas rentrer avant minuit. Si l'on supposait qu'ils se mettaient immédiatement à ces travaux de vérification, il fallait encore attendre qu'ils revinssent sur les lieux. D'autre part, j'avais toujours entendu dire qu'une vieille tradition interdisait toute action entre le coucher et le lever du soleil. Évidemment, il devait exister des cas où l'on passait outre. En m'en allant à l'aube, il me semblait que je ne risquerais pas grand-chose. Je me dirigeais vers Levallois. Pendant plus d'une heure, je rôdais dans les rues désertes. Je cherchais un hôtel qui n'eût pas plus d'un étage, 2 au maximum, de façon que je pusse, en cas de besoin, sauter par la fenêtre. Je voulais aussi qu'il se trouvât à l'écart, loin de toute artère centrale, afin que l'inspecteur dans la tournée duquel il figurait le négligeât. J'en aperçus un enfin, mais au dernier moment je n'y entrais pas. En regardant à travers les glaces, j'avais constaté que les clients se connaissaient et qu'il y régnait une atmosphère familiale que je n'eusse pas manqué de troubler. C'est vraiment pénible d'être dans une situation pareille. Chaque fois que je m'apprêtais à faire quelque chose, une raison se présentait qui m'obligeait toujours à m'abstenir. Tout à coup, je remarquai sur le côté un de ces couloirs ouverts toute la nuit. Je montai au premier étage. Un homme était en train d'arranger un lit dans une sorte de bureau. Dans un instant, l'hôtel, le couloir, l'escalier seraient plongés dans l'obscurité, ce qui n'eût certainement pas été le cas si l'on eût attendu la police. Aucune table dans ce bureau. L'homme me donna pourtant une fiche à remplir, mais il ne trouva pas d'encrier. Je m'offris d'accomplir cette formalité le lendemain matin. « Oh non !» répondit-il, ce qui me fit frissonner. « On ne sait jamais quand ils viennent. » Un instant, je songeais à m'inscrire sous un faux nom. puisque le portier était bien incapable de vérifier ce que j'écrirais. Puis je pensais à écrire mon nom de telle façon qu'on ne pût le déchiffrer. Mais je lus au bas de l'affiche cette sèche recommandation en caractère gras, écrivez lisiblement. Le portier me pria de payer d'avance. C'est ridicule, mais ce manque de confiance me soulagea. Ainsi l'hôtel se méfiait de ce que j'allais faire. Il me considérait donc comme un homme libre sur lequel il n'avait aucune prise, un homme qui pourrait s'en aller quand il en aurait envie. Je montai dans ma chambre. Un couvre-lit à franges qui pendait jusqu'à terre dissimulait le sommier métallique affaissé dans le milieu. Je ne regardais même pas la chambre. Je fermais la porte à clé. La serrure était de travers. J'examinais les encoches tordues. Il y avait aussi un loquet à fermeture papillon, mais une poussée de l'épaule et il sautait. J'ouvris la fenêtre malgré le froid. Je me trouvais au premier étage, ce qui était parfait. Cette fenêtre donnait malheureusement juste au-dessus du couloir de l'entrée, si bien que si j'étais amené à sauter, j'allais tomber dans les bras des policiers restés en bas. Je songeais à retourner au bureau de l'hôtel. Il me fallait un prétexte. Je ne pouvais pas, sans bagage, n'ayant besoin que d'un lit pour dormir, faire le difficile. Et moi qui me surprenais de plus en plus souvent à être fier du courage dont j'avais fait preuve après mon évasion, et surtout pendant, car il ne fallait pas oublier que pour assurer sa réussite, pour sauver mes camarades, j'avais tué deux Allemands. Je commençais à m'apercevoir que, contrairement à ce que j'avais cru, mes craintes ne diminuaient pas avec le temps, elles augmentaient au contraire. En arrivant à Paris, j'avais songé naïvement à me cacher dans des endroits tout à fait à l'écart. Terrain clôturé, entrepôt en plein air, chantier dont les travaux étaient suspendus, etc. Mais j'aurais couru d'autres dangers. En m'y introduisant, j'avouais que je me cachais, je commettais une infraction, et les individus qui pouvaient alors s'approcher de moi n'étaient plus tenus, comme les autres, à respecter certaines convenances. Il eût fallu que je me rendisse dans ces lieux isolés en prenant la précaution de n'être vu de personne, c'est-à-dire en acceptant le risque d'intriguer des gens qui, autrement, n'auraient fait aucune attention à moi. En traversant une nuit un village, Roger Baume et moi, nous n'avions pas hésité, en entendant des pas, à nous jeter dans un fossé. Nous étions à ce moment-là bien décidés à nous défendre. Depuis que je me trouvais à Paris, cette belle énergie s'était évanouie. Il ne s'agissait plus pour moi d'escalader des murs, de ramper, de me jeter dans des encoignures, mais simplement de ressembler à tout le monde, de passer inaperçu. J'avais songé aussi à aller à Versailles, chez mon père. Mais je n'arrivais toujours pas à me souvenir si dans les papiers que j'avais eu la bêtise de laisser au camp ne figurait pas son adresse ainsi que celle de ma mère. Certains de mes camarades avaient peut-être été arrêtés. Ils avaient peut-être parlé, comme sans doute ceux qui au dernier moment n'avaient pas voulu nous suivre. Mon fascicule portait 243 rue Saint-Jacques, mais dans les innombrables questionnaires que les Allemands m'avaient fait remplir, n'avais-je pas donné une adresse plus récente? Dès le début, j'avais eu l'intention de m'évader, et j'avais subordonné tous mes actes à ce but, mais n'avais-je pas failli à un moment? Il est difficile d'être sûr de ne pas avoir commis des fautes, le détail de nos journées une fois oublié. Le plus sage était de ne pas aller encore à Versailles, et surtout de ne pas prêter aux hommes lancés à mes trousses une habileté trop grande. Quelque désirable que fût ma capture, je devais me dire que mes ennemis n'apportaient pas le même désir de réussir que j'eusse apporté moi-même, dans la recherche, par exemple, d'un être cher. Aussi m'efforçais-je de ne pas m'exagérer les dangers que je courais, et de tout considérer avec les yeux d'un homme qui n'aurait rien à se reprocher. C'était difficile. Je me décidai enfin à aller voir M. Georget, un professeur, grand ami de mon père, chez qui, il y avait quelques années, j'avais vécu pendant que je faisais ma première année de droit. Avec ses orbites qui faisaient deux grands trous dans son visage, avec son air triste, on eût dit une chouette. Il avait une longue barbe blanche peu fournie. Ses yeux clignaient à la lumière. Il avait vécu tant d'années dans les livres qu'un homme en chair et en os qui ne fût pas professeur ou étudiant lui causait autant de frayeur qu'une jolie femme, Il était modeste, droit, bon, mais je dois dire que dans la situation où je me trouvais, je n'attachais pas une grande importance à ses qualités. J'envisageais tous les accidents possibles. Un homme aussi scrupuleux et aussi naïf pouvait être mêlé à une fâcheuse histoire sans même s'en douter. Il pouvait s'être compromis en protégeant d'autres gens qui ne le méritaient même pas, ou qui se trouvaient dans mon cas, car aussi exceptionnel que celui-ci me sembla, il n'était certainement pas unique. Je ne tardais heureusement pas à me rendre compte que l'excès de précaution et de réflexion était aussi dangereux que l'insouciance. M. Georget habitait, rue de Sèvres, une maison que rien ne signalait à l'attention. Elle était d'un rang un peu supérieur à ses voisines, car le numéro, au lieu de figurer sur une plaque d'émail bleu, était gravé dans un écusson juste au-dessus de la porte. Les fenêtres, très rapprochées et très étroites, montraient que les chambres étaient petites. Je passais devant la maison la première fois très lentement, comme si je flânais. La deuxième, d'un bon pas, comme un homme qu'on attend mais qui n'est pas en retard. La troisième, très vite, avec une expression ennuyée, comme si j'avais oublié quelque chose. La quatrième, d'un pas assuré, avec une mine soulagée. Chaque fois, j'avais jeté un rapide coup d'œil dans le couloir. Il avait toujours été vide. Pourtant, je ne me décidais pas encore à m'y aventurer. Si l'ami de mon père avait pu deviner ce qui se passait, il eût été bien surpris. Moi, l'individu dangereux, j'avais peur d'être pris à cause de lui, homme paisible et respectable. Moi, dont la présence pouvait avoir les plus graves conséquences pour lui, j'avais peur d'être arrêté à cause de lui. Enfin, je me décidai à m'engager sous la voûte. Sachant le mal que me faisaient les bruits inattendus, je me tenais toujours sur mes gardes. Juste à un moment de distraction, une bicyclette tomba dans la cour. Je crus être pris. Je me retournai brusquement comme si la porte d'entrée s'était refermée sur moi. Il me paraissait que des hommes allaient surgir de partout, que j'étais tombé dans une souricière. Je ressortis et je restai quelques instants dans la rue à reprendre ma respiration. Enfin, je frappai à la loge du concierge. Il leva la tête, m'interrogeant à travers la vitre. Il y avait maintenant un autre cap dangereux à franchir, celui où j'allais prononcer le nom de Georget, celui où ce nom allait peut-être réveiller une affaire endormie. « Est-ce que monsieur... » Je fis semblant de chercher le nom, comme si mes relations avec le professeur étaient si peu importantes que je l'avais oublié. « Un nom qui commence par un G, un vieux monsieur à barbe blanche. Vous voulez dire monsieur Georget ?»«
Oui, c'est ça !»
m'écriai-je avec une expression joyeuse, mais sans quitter des yeux une seconde le concierge. « Est-ce qu'il habite toujours là ?»«
Au troisième à gauche, monsieur, » répondit l'homme.
Je gravis un escalier obscur. Arrivé au premier étage, je redescendis quelques marches pour jeter un coup d'œil par-dessus le rideau qui masquait la petite fenêtre de la loge. Au fond du couloir, j'apercevais la porte d'entrée. Elle était toujours ouverte. En me penchant, je vis des gens passer qui ne tournaient même pas la tête. Le concierge lisait un journal. Il avait un pince-nez. Je frappai au carreau.
« Est-ce bien au troisième ?»«
Mais oui !»
dit le concierge étonné. En montant de nouveau l'escalier, je me dis que si je continuais à me conduire ainsi, cela finirait par me jouer un vilain tour. Je revoyais l'expression étonnée du concierge et j'imaginais ses soupçons éveillés. Évidemment, j'étais rassuré quant à M. Georget, mais voilà qu'en revanche, je ne l'étais plus quant au concierge. Je l'imaginais se posant une foule de questions, me trouvant bizarre, prévenant je ne sais qui. Il s'en fallut de peu que je ne redescendisse encore, non pour lui parler, mais pour le regarder, sans qu'il me vît, et m'assurer qu'il lisait, qu'il ne pensait pas à moi. La crainte qu'il ne me surprît alors m'arrêta. Vous imaginez la scène. Ce concierge levant la tête et m'apercevant, immobile, les yeux fixés sur lui. Monsieur Georget m'accueillit avec beaucoup de cordialité. Il me fait servir tout de suite une collation, oh, pas grand-chose, une tranche de pain noirâtre et de la confiture au sucre de raisin. Je craignais qu'il ne se demandât pourquoi je n'allais pas chez mon père ou chez des amis plus intimes, car au fond, la raison pour laquelle je me rendais chez lui plutôt qu'ailleurs pouvait ne pas lui paraître très claire.
il la trouvait cependant naturelle, comme on trouve naturel un compliment. Une expression d'amour-propre flatté parut sur son visage. Il me montra tout de suite la chambre qu'il mettait à ma disposition. J'y serais évidemment en sécurité. En admettant que je ne sortisse plus, il semblait impossible que je puisse être retrouvé. Le premier jour, j'éprouvais une immense sensation de sécurité. J'étais sauvé. La deuxième, cette sensation demeura, quoique légèrement atténuée. Le troisième, elle s'évanouit. Je me rendais compte qu'en réalité, ma situation n'était pas meilleure qu'auparavant. Monsieur Georget s'étonnait déjà que je l'eusse choisi. Quand nous demandons un service, il faut que la personne à qui nous le demandons soit la seule à pouvoir nous le rendre. J'essayais plusieurs fois de savoir ce que Monsieur Georget pensait. Mais rien n'est plus difficile quand on a affaire à des gens gentils. Était-il décidé à me garder chez lui? Dans ses paroles, il semblait qu'il n'eût aucune limite à sa générosité. Mais d'autre part, il demeurait dans le vague. C'était plus par la profonde bonté qu'il me témoignait que par des actes précis qu'il me montrait que je ne le gênais pas. Je n'étais pas rassuré. Il demeurait sur un terrain qu'il lui serait facile de quitter. Quand il me disait « Vous pouvez compter sur moi, mon cher petit, vous êtes ici, chez vous, ma femme et moi, nous ne vous laisserons jamais dans l'embarras. » Je n'étais qu'à demi satisfait. J'aurais préféré qu'il me dît « Voici la clé, surtout ne sortez pas, je vais vous donner un costume, je vais tâcher de savoir comment on peut se procurer des papiers. » Je sentais que Madame Georget surtout commençait à me trouver exagérément prudent pour un garçon qui prétendait s'être tout simplement évadé d'un camp de prisonniers. Les premiers jours, à la suite des fatigues endurées, j'avais été excusable. Je prétendais qu'il m'était désagréable de sortir dans un pareil accoutrement, que je me plaisais beaucoup dans ma chambre, etc. Mais mes explications avaient un grand défaut. On ne voyait pas très bien comment les choses s'arrangeraient dans l'avenir. Comme j'étais resté 12 jours sans sortir, on me parla d'un cousin, évadé également, qui avait repris son emploi au Crédit industriel et commercial. Je compris le sous-entendu. Après le déjeuner, pour la première fois, je fis une petite promenade. J'avais affaire à des gens tranquilles chez qui ma présence était tout à fait déplacée. Ils étaient très fiers de m'offrir l'hospitalité. Ils s'imaginaient qu'ils faisaient un acte de patriotisme. J'en étais gêné. Ils me parlaient parfois avec une nuance de complicité. En attendant de trouver ailleurs un abri aussi sûr, j'étais bien obligé de paraître de leur avis. Mais je manquais de chaleur. Ils m'énervaient de plus en plus à ne pas se rendre compte du tragique de ma situation et à paraître croire que dans quelques jours, j'allais pouvoir reprendre une vie normale. Je m'étais imaginé qu'une fois à Paris, je vivrais dans une atmosphère de lutte et d'exaltation, et voilà qu'au cours des interminables journées que je passais chez M. Georget, l'impression que je perdais mon temps se faisait de plus en plus forte en moi. Le perdais-je vraiment? Je ne pouvais pas le perdre, puisque la seule chose qui me restait à faire jusqu'à la fin de la guerre était de me cacher. Eh bien, j'étais caché. Que voulais-je d'autre? Je compris alors que le plus grand des dangers qui me guettaient, ce n'était ni la police, ni l'égoïsme des gens, mais l'attente contre laquelle j'allais avoir à lutter. J'aurais pu trouver ailleurs un gîte, mais j'étais déjà sous le coup de cette paresse qui nous saisit quand les choses sont provisoirement arrangées. Je me disais que partout il y aurait un détail qui n'irait pas, qu'il valait mieux me contenter de ce que j'avais et ne pas être, comme on me l'avait souvent reproché, toujours mécontent. Mon salut ne dépendait pas de ce que je trouverais ailleurs, mais de la façon dont je saurais m'accommoder de ce que j'avais à présent. Mais en même temps, je pensais qu'il me fallait au contraire chercher à améliorer ma situation et ne pas perdre mon temps là où il était évident que je ne pourrais pas rester. J'étais donc bien perplexe. À présent que ma vie était en jeu, je me rendais compte que mes défauts, auxquels je n'avais jusqu'alors pas prêté grande attention, étaient immenses. Finalement, je me décidai à attendre que la nécessité m'obligeât d'agir. Que faire d'autre ?
J'étais en sécurité, je ne risquais pas grand-chose. Je me forçais à être aimable. Je trouvais même que je ne l'avais pas été assez jusqu'à présent. J'avais été trop occupé de moi-même. J'avais trop eu le sentiment que ce qu'on faisait pour moi était naturel. J'avais trop conscience des qualités que j'avais montrées pour envisager seulement qu'on pût ne pas m'estimer. Quoique nous fussions tellement différents, nous avions la même taille, M. Georget et moi. Il s'était décidé enfin à me donner un de ses vieux costumes, un complet de serge luisante, usé jusqu'à la corde, mais impeccablement repassé. Les fenêtres des pièces principales donnaient sur une cour propre, couverte de fausses dalles dessinées sur le ciment. Ma chambre, comme les cuisines avec leur garde-manger extérieur, donnait sur une autre cour plus petite. Le lit de bois verni était très haut et mal ajusté. Une peau d'ours, beaucoup plus agréable à l'œil qu'au toucher, servait de tapis. On m'avait installé une table pliante. Pour faire habiter, Madame Georget avait posé sur cette table un encrier, une plume, un sous-main. C'était la deuxième fois depuis mon évasion qu'on avait eu cette attention pour moi. Au début, je n'avais pas osé ouvrir la fenêtre à cause des vis-à-vis et des sourires que les domestiques auraient pu m'adresser. Maintenant, je l'ouvrais, mais sans me montrer, ce qui n'était pas facile, car la chambre était petite et encombrée d'armoires et de commodes. J'entendais des gens qui se disaient bonjour tous les matins et qui avaient une façon de se demander comment ils allaient, qui me portaient sur les nerfs, tellement il était évident qu'ils allaient bien. Plus les jours passaient, plus je me rendais compte que ce n'était pas chez des braves gens comme ce ménage de professeur que je devais vivre, mais chez des hommes de mon âge, courageux, à qui j'eusse pu dévoiler ma véritable situation et qui, en cas de danger, au lieu de prendre peur, se fussent fait mes défenseurs et eussent même été fiers de s'exposer pour moi. Je me rendis compte enfin que j'étais victime d'un malentendu. M. Georget avait consenti à m'héberger, mais non à me cacher. J'avais confondu les deux actions. Il craignait d'avoir été trop loin. Et rien ne m'était plus pénible que de voir cet honnête homme en lutte continuelle avec ce qu'il avait de mauvais en lui, la peur de se compromettre, le sentiment de ne pas faire assez, le désir secret que je m'en aille. Une autre chose m'énervait encore plus. J'avais cru que ce professeur serait accablé par toutes les difficultés qui, en cette époque difficile, se présentaient dès que l'on voulait faire le moindre geste ou satisfaire le moindre désir. Mais pas le moins du monde. Il semblait ne jamais avoir été aussi à l'aise. Il était justement en train de faire des démarches pour obtenir un changement de catégorie de sa carte d'alimentation. Il ne faisait qu'en parler. Cela ne l'ennuyait pas du tout. Il défendait sa vieillesse et ses infirmités sans la moindre discrétion. Il ne voulait rien perdre de ce à quoi il avait droit, et quand il lisait dans le journal qu'il lui revenait je ne sais combien de grammes de beurre, il abandonnait immédiatement ses livres pour descendre chez le crémier. Je résolus de partir. Je n'avais pas d'argent, je ne savais où aller, mais je me sentais un besoin profond de ne compter que sur moi-même. En restant ici, j'allais finir par être prisonnier d'une foule de bonnes intentions. Je ne voulais pas faire de peine à l'ami de mon père, ni lui laisser une mauvaise impression. J'avais eu la faiblesse de le laisser s'occuper trop de moi. Pendant que je me torturais l'esprit ainsi pour trouver un prétexte, il m'apparut tout à coup que j'étais un insensé. Quoi ? Au moment où ma vie était en jeu, je m'attardais à des questions de délicatesse. Je fermais les poings. Il fallait que je redevienne un homme, que je me répète sans cesse que j'étais de nouveau seul, face à mes poursuivants.